Bienvenue, chers auditeurs, dans cette émission que nous consacrons aux grands personnages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder un personnage de taille dans la Bible, de grande taille même. C'est le personnage de Marie, Marie, mère de Jésus. Alors, j'ai invité pour vous parler de Marie, Stéphane Aubugeot, prêtre à Cahors.
Bonjour.
Bonjour Stéphane. Et nous avons décidé de vous parler de Marie sous forme de quatre parties. Marie, d'abord, la femme qui a été choisie par Dieu. Ensuite, Marie, mère du Christ, et Marie, mère de Dieu. Dans une troisième partie, nous aborderons Marie en tant que femme de l'écoute, celle qui a écouté, et Marie, enfin, au pied de la croix, et Marie, mère de l'Église. Alors, pour aborder la première partie, la femme choisie, savons-nous, Stéphane, pourquoi et comment cette Marie, qui était cette jeune femme de Galilée, pourquoi et comment a-t-elle été choisie ?
Alors, comme pour Abraham, les prophètes, et comme d'autres femmes, Marie est une personne choisie. Et d'ailleurs, l'annonce de l'ange Gabriel de sa future maternité n'est pas sans rappeler l'annonce de l'ange du Seigneur à la mère de Samson, par exemple. Ainsi, Marie est bénie parmi les femmes pour être la mère d'un enfant qui sera appelé « Fils du Très-Haut ».
Alors, en Luc 2, 26 à 37, on peut lire « Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de cette jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. »
Alors pourquoi Dieu procède ainsi ? C'est son souverain choix, comme on dit. Pour sauver les hommes, Dieu choisit des personnes particulières. Et ces élections divines peuvent nous étonner quand nous pensons « Dieu ne veut-il pas nous sauver tous ?» Et nous avons tendance alors à envisager une action divine comme un phénomène qui toucherait toute l'humanité d'un seul coup. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Déjà avec Noé, il passe par le singulier, c'est une personne, deux personnes, pour toucher l'universel. Et ainsi, des personnes se retrouvent acteurs, actrices de l'histoire du salut, en portant une responsabilité qu'ils n'ont pas demandée. Et parmi toutes les personnes choisies, Marie est probablement celle qui bénéficie des plus grandes grâces et aussi celle qui, de fait, porte les plus lourdes responsabilités.
Alors, je vous ai lu l'annonce qui a été faite par l'ange Gabriel à Marie, en Luc. Mais quelle a été la réponse de Marie ? Alors, je vous lis la suite. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle naît à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. »
Et la réponse de Marie, c'est « qu'il me soit fait selon ta parole ». L'intervention de l'ange Gabriel dans la vie de Marie, nous le voyons, comme il l'explique, coïncide avec d'autres interventions. auprès de sa cousine Élisabeth et de Zacharie, l'époux d'Élisabeth. Et ainsi, l'ange Gabriel, entre Marie et ses autres acteurs, va tisser des liens surnaturels qui vont prendre le pas sur les liens naturels. C'est d'ailleurs à l'occasion de la rencontre de Marie, d'Élisabeth, de l'enfant Jean-Baptiste qui est encore dans les entrailles d'Élisabeth, que Marie va prononcer ce Magnificat qui nous dévoile sa vie intérieure. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Et donc ça, tout ça, c'est déjà l'œuvre de Dieu à travers l'ange Gabriel. Et d'une manière un peu semblable, il va aussi intervenir, Dieu va intervenir auprès de Joseph, peu après l'Annonciation. Et c'est lui qui va annoncer, c'est un ange de Dieu dans un songe, qui va annoncer le prodige qui se réalise dans le sein de Marie. Et nous constatons d'ailleurs que Marie, selon les évangiles, n'a rien dit à Joseph, laissant l'espace à Joseph pour se déterminer et à Dieu pour intervenir. Et ce silence de Marie est une de ses caractéristiques, une caractéristique de son identité. Marie se reçoit de Dieu, elle l'écoute dans le silence et comme elle le dit dans le Magnificat, elle est l'humble servante par excellence. La question de Marie, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, renvoie aussi à la nouveauté de la situation et à la nouveauté même de cette annonce que l'on perçoit, si l'on connaît bien comme Marie, les écrits, les Écritures. Autrefois, et encore avec Élisabeth, les naissances dues à des interventions divines étaient données à des femmes mariées qui avaient passé l'âge d'enfanter. Mais avec Marie, c'est une vierge encore fiancée, qui ne connaît pas d'homme, qui va enfanter. De là vient la question de Marie. Cette nouveauté annonce une autre nouveauté. De quoi s'agit-il ? Marie a encore à le découvrir.
Voilà, donc nous avons vu cette façon dont Marie a été choisie par Dieu, via l'ange Gabriel, via le messager, pour porter Jésus, son fils. Donc on va aborder maintenant cette seconde partie, Marie, mère du Christ et mère de Dieu. Alors Marie va devenir mère de Jésus, mais pourquoi Stéphane dit-on qu'elle est aussi mère de Dieu, puisque Dieu, c'est trois personnes. C'est pas seulement Jésus, il y a l'Esprit et il y a le Père.
Bon, lorsque les premiers disciples et l'Église comprennent qui est né par la Vierge Marie, celle-ci reçoit l'appellation de mère de Dieu. Ici, le commencement de la maternité n'est pas le point de départ de l'existence de l'enfant porté. Marie porte en son sein une personne qui préexiste à l'existence du corps biologique. Ainsi, Dieu, en se faisant homme, choisit de passer par toutes les étapes de la vie humaine biologique. Et l'expression « mère de Dieu » souligne à la fois le choix de Dieu de s'incarner et l'étroite proximité entre le corps de Marie et le corps historique du Fils de Dieu. Comme toute mère, Marie a une relation unique avec son Fils, et ceci fait que tout disciple du Christ porte inévitablement une attention particulière à celle qui est sa mère. Dès les temps antiques, donc, une dévotion spontanée envers la mère de Jésus se développe. Alors, je voudrais vous faire partager un très beau texte de saint Ephrem de Nisibe qui nous fait méditer sur le mystère de la maternité de Marie en lui prêtant des paroles.
Alors, voici ce texte de saint Ephrem de Nisibe. Le Fils du Très-Haut en moi est venu habiter, et je suis devenu mère. Et comme je l'avais enfanté, d'un autre enfantement, lui aussi m'a mis au monde dans une seconde naissance. Et de celui qui, d'un maternel vêtement, s'était vêtu, j'ai revêtu la gloire. Point jalouse ne suis, mon fils, de ce que tu es avec moi. Et avec tous aussi. Sois le Dieu de qui te proclame, sois le Seigneur de qui te sert, et sois le frère de qui t'aime, afin de donner à tous la vie. Quand je vois ton image, l'extérieur, qui est devant mes yeux, ton image invisible est peinte en mon esprit. Dans ton image visible, c'est Adam que j'ai vu. Et dans l'invisible, c'est ton Père que j'ai vu. À toi, si étroitement uni. Alors, Stéphane, après avoir lu ce beau texte de saint Éphrem, où on entend Marie parler et s'adresser à Jésus, comment peux-tu nous dire comment vont se dérouler les rapports de Jésus avec sa mère ?
Les rapports entre Jésus et sa mère vont évoluer, et nous avons dans le texte, si nous prêtons attention, des signes de cette évolution. Jeune, Jésus était soumis à ses parents. Il apprend auprès d'eux. Par exemple, Jésus, comme Marie, aime apporter son attention à de petits détails. On voit bien qu'il y a une influence de Marie sur Jésus. Voilà le petit détail de la veuve qui offre ses deux piécettes, remarqué par Jésus, et le petit détail du vin qui manque lors des noces de Cana, remarqué par Marie. Cette situation initiale évolue. Une fois adulte, nous pouvons être surpris de certaines répliques de Jésus à propos de sa mère ou de la maternité en général.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ».
Alors, le fait d'appeler sa mère « femme » relativise cette maternité et une telle mise à distance, même si elle est surprenante, mais elle revient d'autres manières, chez Luc par exemple, au chapitre 8.
Alors cet extrait est le suivant. « On dit à Jésus, ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Autre extrait de Luc. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Mais Jésus lui déclara « Heureux plutôt, ce qui écoute la parole de Dieu et qui la garde.
Voilà, cette femme qui parle à Jésus se focalise sur ce lien maternel, s'en émerveille, et ce qui est une façon de rendre grâce et pour le fils et pour la mère. Mais Jésus demande à l'auditoire de déplacer son attention vers la parole de Dieu. Jésus prend appui sur l'évocation de la maternité pour nous dire comment devenir pour lui un frère, une sœur et même une mère. Ce ne sont pas les liens de chair, même celui de la maternité, qui priment, mais bien l'écoute de la parole de Dieu.
L'écoute de la parole de Dieu, cela nous conduit à la troisième partie de cette évocation de Marie, Marie, femme de l'écoute.
En diverses situations, Jésus rappelle effectivement que le lien de chair est moins important que l'écoute. Cependant, Marie est connue justement pour cette disponibilité à la parole de Dieu. Elle répondra à l'ange « qu'il m'advienne selon ta parole ». Et l'écoute de Marie est exceptionnelle. Et à plusieurs reprises, saint Luc souligne combien Marie méditait sur les événements dans son cœur. Plus encore, elle est la mémoire de la parole et d'événements aussi intimement liés, ce qui servira à saint Luc lorsqu'il mettra par écrit son évangile. La personne qui met le Fils de Dieu au monde est aussi la personne qui garde le mieux la parole de Dieu. Et la dernière parole de Marie du Nouveau Testament, la dernière parole qui sera retranscrite dans un évangile sera « Faites tout ce qu'il vous dira ». Notons que saint Jean-Paul II, Benoît XVI ont insisté sur le lien entre la Vierge Marie et la parole de Dieu.
Oui, on aurait aussi pu évoquer le chant du Magnificat où Marie, de Marie à sa cousine Élisabeth, dans lequel elle tourne manifestement les yeux vers la parole de Dieu, et vers ce qui la dépasse et ce qui nous dépasse.
Tout à fait.
Voilà, donc ça nous amène à la quatrième partie, douloureuse pour Marie, c'est Marie au pied de la croix, où on peut considérer qu'elle devient un peu mère de l'Église.
Tout à fait. Alors déjà, nous pouvons observer, d'une part, que dans les précédents passages de Luc que nous avons entendus, sans lien évident, Jésus parle de la parole et des disciples au moment où on évoque sa mère. Comme si l'évocation de sa mère renvoyait spontanément dans son esprit au groupe des disciples, c'est-à-dire à l'Église. Et cette tendance trouve son sommet au pied de la croix. Au moment de la croix, nous avons ce texte de Jean, chapitre 19.
Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. N'était-ce pas Stéphane, là, quand on lit cet extrait, de la part de Jésus, une façon de dire à sa mère, « Ne me regarde plus. » Pose maintenant ton regard sur l'Église.
Oui, c'est, on pourrait dire, un détournement de maternité. Marie devient mère des disciples et de même le disciple. Alors le disciple, c'est le disciple bien-aimé chez saint Jean et c'est un peu le disciple modèle. Et chaque disciple est appelé à prendre Marie pour mère. Et donc le lien étroit entre la mère de Jésus et ceux qui écoutent la parole de Dieu va se développer. Et au moment de la Pentecôte, elle prie avec les apôtres, et nous le retrouvons ce lien beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, au moment où la femme qui enfante le berger des nations est menacée par un dragon. Ce dragon qui représente les puissances du mal ne peut plus atteindre la femme, alors du coup il part faire la guerre au reste de la descendance de la femme, c'est-à-dire à ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus, nous dit le texte. Ainsi, aux yeux même du dragon en colère, l'Église terrestre des disciples a aussi pour mère la mère de Jésus, et c'est même là le motif de sa colère contre les disciples. Donc on voit bien que dans l'Église naissante, il y a cette conscience très aiguë du rôle de Marie comme mère des disciples.
Voilà, on aurait aussi pu évoquer Marie au Cénacle, qui, avec les apôtres, attend la venue de l'Esprit de Pentecôte. Mais voyons la fin de la vie terrestre de Marie.
Oui, nous fêtons chaque 15 août l'Assomption de Marie, et cette affirmation solennelle de l'Assomption de la Vierge Marie, je vais la relire. Hein. Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Alors que pour tous les hommes, en effet, la résurrection des corps se situe à la fin des temps, dans le cas de la Vierge Marie, cette résurrection est anticipée comme pour marquer le rôle éminent de ce corps particulier qui a porté le Sauveur. Marie est élevée. C'est l'élévation à la gloire céleste de la bienheureuse Vierge Marie. Ce dogme est à situer dans une perspective d'une vision de l'homme où le corps est tenu en haute dignité, où l'esprit et le corps disponibles à l'œuvre de Dieu participent non seulement à la vie divine, mais aussi à sa gloire. La résurrection du corps et la dignité du corps font partie de la foi chrétienne. C'est quelque chose qui est important et que cette Assomption de Marie signifie très bien. L'Assomption est un signe qui montre aussi la destinée universelle de l'homme. Elle montre l'intime communion de la Vierge Marie avec tous les saints. Si la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste, nous pouvons en tirer deux enseignements. La Mère de Jésus représente et inaugure l'Église achevée. Elle brille comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. Ainsi, nous pouvons entrer nous-mêmes dans cette espérance de la résurrection des corps. Et puis, après son ascension au ciel, le rôle de la Vierge Marie ne s'interrompt pas. Sa proximité corporelle avec l'humanité demeure et sa place dans une position d'intercession. Notons que ce rôle à l'égard des hommes n'efface pas l'unique médiation du Christ, il en manifeste au contraire la vertu. Ainsi, la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de médiatrice. La Vierge Marie, après son Assomption, continue donc d'intercéder pour nous auprès du Père et de son Fils, appelant pour nous le don de l'Esprit-Saint. Sa prière auprès de son Fils est aussi un appel pour nous à tourner notre regard et notre cœur vers le Christ pour exulter en Dieu, notre Sauveur.
Voilà, c'est ainsi que Marie, aujourd'hui, dans notre monde actuel, et depuis des siècles déjà, est présente partout par ses apparitions aux quatre coins du monde. Et quels que soient nos pédigrés, finalement, juifs, musulmans, hindouistes, bouddhistes, agnostiques et même athées, comme on le voit régulièrement quand on fréquente Lourdes. Voilà donc ce personnage de Marie, ce grand personnage de la Bible, que nous avons eu le bonheur d'évoquer avec Stéphane, avec vous, chers auditeurs. Marie, c'est une, on le dit souvent, c'est notre maman du ciel, et c'est une présence discrète, aimante, protectrice, qui nous entoure tous, et c'est la raison pour laquelle on a été si heureux de l'évoquer aujourd'hui. Voilà, chers amis auditeurs, je vous dis à bientôt pour sur la route de ces grands personnages de la Bible. Je remercie Stéphane.
Merci Jacques.
Et je remercie aussi Manol pour son appui technique. À bientôt.